France Inter, le 18-20.
Cette édition spéciale du 18-20 se poursuit avec un téléphone sonne consacré ce soir à la disparition de Simone Veil. L'ancienne ministre de la Santé et des Affaires sociales aura marqué son époque par ses combats en faveur des femmes et notamment en faveur de l'avortement. C'était en 74, il y a plus de 40 ans, et pourtant les Français et les Françaises n'ont pas oublié. On en parle dans ce téléphone sonne avec l'historienne Agnès Vivorca qui est restée avec nous, avec deux politiques également. Le centriste Pierre Méhaignery qui l'a côtoyé dans le gouvernement Balladur dans les années 90. Il est perdu quelque part dans les bouchons, dans sa voiture, mais heureusement les téléphones portables existent. Roselyne Bachelot, bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne ministre de la Santé qui s'y connaît en matière de combat politique féministe. En ligne avec nous également Danielle Gaudry, qui est gynécologue obstétricienne, ancienne membre du Bureau national du planning familial. Elle était en médecine quand la loi Veil a été votée. Elle se souvient des avortements clandestins qui étaient pratiqués à l'époque. Elle nous racontera. Avec nous également une représentante de la nouvelle génération des féministes, Raphaël Rémy-Leleu, porte-parole de l'association Oser le féminisme. Bonsoir Raphaël Rémy-Leleu. Et puis bien sûr, vous tous qui êtes de l'autre côté du poste, on attend vos appels ou vos mails. Cette émission est bien sûr la vôtre, comme toujours.
Claire Servagen, le téléphone sonne.
On va pour commencer écouter Simone Veil à la tribune de l'Assemblée. C'était le 25 novembre 1974, histoire de se remettre tout ça en mémoire.
Pourquoi donc ne pas continuer à fermer les yeux? Parce que la situation actuelle est mauvaise. Je dirais même qu'elle est déplorable et dramatique. Lorsque des médecins, dans leur cabinet, enfreignent la loi et le font connaître publiquement, lorsque les parquets, avant de poursuivre, sont invités à en référer dans chaque cas au ministère de la Justice, lorsque des services sociaux d'organismes publics fournissent à des femmes en détresse les renseignements susceptibles de faciliter une interruption de grossesse, lorsque, aux mêmes fins, sont organisés ouvertement et même par charter des voyages à l'étranger, alors je dis que nous sommes dans une situation de désordre et d'anarchie qui ne peut plus continuer.
Roselyne Bachelot, je vous voyais écouter attentivement cet extrait de l'Assemblée nationale à une époque où il y avait encore moins d'hommes qu'aujourd'hui, ce combat de Simone Veil.
Qu'est-ce qui vous inspire ? Merci d'avoir mis un extrait qu'on passe rarement. On passe en général le début du discours qui est beaucoup moins bon. Là, vraiment, excusez-moi, je le dis avec vérité, là, vraiment, Simone est dans le cœur du sujet. Elle est un modèle pour toutes les femmes qui ont fait de la politique. Elle est un modèle pour toutes les militantes féministes. Elle est un modèle, je crois, pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est l'émotion qui domine, parce que Simone a été la figure tutélaire qui a guidé toute ma vie politique, évidemment, et qui a nourri mes combats. J'arrive dans son bureau, parce que je peux pas dire autre chose. Je suis ministre de la Santé, j'arrive dans son bureau. La première chose que je fais, c'est de lui téléphoner, parce que je pouvais pas imaginer de faire autre chose que de téléphoner à Simone. Elle a guidé ma vie de femme et guidé ma vie de politique. Et puis cette soif de liberté qu'elle avait, ce refus de se mettre dans les clous quand elle pensait quelque chose. Elle soutenait Giscard, et ben elle n'a pas accepté le retour forcé des Algériens dans leur pays. Elle soutenait Sarkozy dans sa campagne. Elle a dit non, on peut pas faire un ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et on ne peut pas faire parrainer un enfant mort dans la Shoah par une classe de CM2.
Comme voulait le faire Nicolas Sarkozy.
Elle aimait beaucoup Michel Rocard, mais quand il a voulu informatiser les fichiers des renseignements généraux, elle a dit non, c'est pas possible. Parce que c'était une femme qui arrivait à composer deux choses extraordinaires, la loyauté et la liberté. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire.
Il n'y en a même pas vraiment pour prendre le relais à ce niveau-là. Actuellement, c'est ce que nous disait tout à l'heure René Friedman, qui était en ligne avec nous, irremplaçable pour l'instant. En ligne avec nous également Pierre Méhaignery. Êtes-vous là, Monsieur Méhaignery?
Oui.
Dans les bouchons parisiens.
Exactement.
Oui, les embarras de Paris, c'est ça. Vous avez côtoyé Simone Veil dans le gouvernement Balladur, c'est ça, dans les années 90 ?
93-95.
Oui, et puis aussi dans les années 75-80.
À l'époque où elle était donc dans les gouvernements Chirac et Barre ?
Voilà, du côté, quand elle était avec Balladur. D'ailleurs, c'est elle qui m'a convaincu alors que je ne le voulais pas. d'aller au ministère de la Justice. Un ingénieur agronome au ministère de la Justice n'était pas totalement adapté. Mais c'est elle, parce qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'autorité et aussi d'attachement aux valeurs. Et une capacité de parler de sa liberté sans peur de porter atteinte à quiconque. Et moi, j'ai une affection, une amitié. Nous étions avec quelques collègues en Slovénie. Et quand j'ai pris son décès, c'est avec beaucoup de peine. Et j'associe Antoine Veil avec Simone parce que c'était un couple remarquable. Il fallait voir les débats sur les engagements européens. Et comme centriste, nous avons eu des dizaines et des dizaines de réunions. Et lorsqu'elle s'exprimait, assez peu, mais elle le faisait avec tellement d'autorité, de liberté et de référence à ses valeurs que nous en étions toujours très convaincus.
Alors, vous le dites, elle était centriste, elle a voté, elle a été dans des gouvernements de droite, il lui est arrivé de voter aussi avec la gauche, ça veut dire qu'elle était déjà un petit peu en même temps, comme on dit maintenant ?
Elle n'aimait pas les clivages excessifs. Elle acceptait la part de vérité chez le partenaire, même si on ne partageait pas toujours les mêmes convictions. Et donc, elle a été pour notre famille politique, au centre, un modèle. Et j'espère que cela continuera dans la mesure où elle savait s'affranchir des rigidités. Et lorsqu'il y a eu le débat, le discours de Grenoble sur l'immigration, enfin, il y a deux
le discours
mots,
de Nicolas
un mot
Sarkozy.
Qu'elle n'aimait pas, assimilation. Pour elle, c'était l'intégration et le respect de la culture de l'autre et de la culture de l'étranger. Ceci, à ce moment-là, elle aurait eu une puissance, mais elle était malade. Une puissance de conviction, si elle avait pu s'exprimer il y a quelques années, lorsque le problème a divisé un peu la droite et le centre.
Merci Pierre Meignery. Gardez le téléphone à portée de main dans les embarras de Paris. Si des fois que vous arriviez par ici, n'hésitez pas à venir en studio. En ligne également avec nous, Daniel Gaudry, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes gynécologue obstétricienne. Vous faisiez partie, peut-être faites-vous toujours partie d'ailleurs du planning familial. Vous étiez au bureau national.
Voilà. Partie,
vous étiez étudiante en médecine quand la loi Veil a été votée. Et c'était l'époque des avortements clandestins. Donc aujourd'hui, comment réagissez-vous à sa disparition?
Nous avons réagi bien sûr par le communiqué de presse, hein, bien entendu. Mais moi personnellement, effectivement, c'est une grande grande dame qui a su écouter ce qui se passait dans la société et arriver à convaincre les personnes qui étaient loin d'être convaincues que le droit à l'avortement était essentiel pour l'équilibre entre ces femmes qui étaient en permanence dans la crainte de maternité non désirée et qui voulaient jouer un rôle important dans la société à égalité avec les hommes. Et je crois que ça, elle l'a parfaitement compris que l'égalité entre les femmes et les hommes passait aussi quelque part par tout ce qui était contrôle au niveau des maternités non désirées. Et ça, je crois qu'elle l'a bien compris, elle en a fait une loi de santé publique et elle en a fait également une des premières lois concernant et consacrant la liberté des femmes de choisir leur maternité.
Est-ce que vous vous souvenez, vous qui étiez militante à cette époque, du jour où la loi a été votée. Qu'est-ce que ça a représenté dans votre quotidien ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
Tout à fait, ce que ça représentait, puisque nous avec le MLAC, nous faisions des avortements clandestins toutes les semaines.
Le MLAC, c'était le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception.
Absolument, qui était un collectif d'associations féministes. Et à ce moment-là, j'étais bien sûr en formation dans un service hospitalier. Et à partir de ce jour-là, où le chef de service n'était pas opposé à l'avortement, mais c'était interdit, donc il appliquait la loi, bien sûr. Et à partir du jour où la loi a été votée, on a eu un discours différent dans les services, avec un certain nombre de médecins qui étaient opposés à l'avortement, considéraient que ça ne faisait pas partie de leur mission, et d'autres qui souhaitaient apprendre, puisque ceux qui savaient pratiquer les avortements, c'était ceux qui les avaient pratiqués auparavant dans la clandestinité, puisque nous avions commencé à appliquer la méthode Karman, c'est-à-dire par aspiration, sans anesthésie, bien entendu, puisque nous n'avions pas les moyens de faire des anesthésies chez les femmes à ce moment-là, dans la clandestinité. Donc, pour nous, ça a été une ouverture importante avec un certain nombre de conflits dans les établissements, bien sûr, dans les services qui pratiquaient les avortements, qui étaient censés pratiquer les avortements, qui étaient censés organiser cet accès aux droits. Et ça a été une période extrêmement importante avec des discussions importantes. Donc pour nous, ça a été une étape extraordinaire de permettre aux femmes de choisir sans être dans l'illégalité.
Vous restez en ligne avec nous, Danielle Gaudry. On va poursuivre ce tour de table avant d'entendre les auditeurs de France Inter. Je me tourne maintenant vers la nouvelle génération des féministes. Raphaël Rémy-Leleu, d'Oser le féminisme, vous n'étiez pas né, vous, en 1974.
Et non.
Non. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, militante ?
Déjà, ça n'enlève en rien ni la tristesse ni l'émotion, puisque en effet, moi, je n'étais pas née à cette époque-là, mais Simone Veil, ça a toujours fait partie de ces figures historiques qui ont accompagné mon parcours militant et le parcours de beaucoup de femmes, qu'elles soient de la nouvelle ou dites de l'ancienne génération. Et c'est important également parce que ça rappelle, c'est normal dans un mouvement, dans une conquête des droits, il y a toujours une figure de proue, une femme, une personne qui se détache. Dans cette loi-là, c'était Simone Veil. C'est important de rappeler la solidarité et l'union du mouvement féministe autour d'elle pour cette loi. Le travail extraordinaire des militantes qui soient aller chercher cette loi à grand coup d'action militante, d'action médiatique, mais qui a aussi amélioré concrètement la vie des femmes en leur permettant d'accéder à l'IVG de manière clandestine. Et j'ai une affection particulière en effet pour ce morceau-là du discours, et pas tant le début, parce que dans cette partie du discours où elle explique l'anarchie qui se produit lorsqu'on refuse aux femmes l'accès à leurs droits, je pense qu'en permettant cette loi, Simone Veil a mis un peu plus d'ordre et de progrès dans la marche du monde.
On part au standard de France Inter. Nicole est en ligne, elle nous appelle de Lyon. Bonsoir Nicole, bienvenue à vous.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Bon, moi j'ai été très attristée en apprenant le décès de Simone Veil. La loi votée en 1974 a soulagé beaucoup de femmes. Et c'est une grande dame que j'admirerai toute ma vie. Alors c'est vrai que l'avortement, c'est quelque chose de difficile. Le problème est en partie résolu, quoi qu'il y ait quelquefois des problèmes, parce que les femmes sont reçues, on leur donne le temps de réflexion. Et quand elles reviennent, le délai est dépassé. Alors là, il doit y avoir un problème à résoudre.
Effectivement, il y a encore des choses à régler. En tout cas, pour vous, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué le pays.
Tout à fait. Ce matin, en apprenant son décès, j'en ai presque pleuré.
Eh bien, merci beaucoup, Nicole, de nous...
Je pense à tous ces députés qui l'ont insulté au moment où elle a soumis la voix. Franchement, c'est pas des êtres humains. Ils ne peuvent pas savoir ce que les femmes subissaient avant.
Merci mille fois, Nicole, d'avoir appelé. Mathieu nous appelle du Rhône, pas très loin de chez vous, visiblement. Bonsoir, Mathieu.
Oui, bonsoir, madame. Oui, tout à fait. J'appelle du Rhône. Voilà, donc moi, en fait, je voulais réagir sur le discours, le fameux discours à l'Assemblée de 1974, et de dire qu'il fallait faire attention à ne pas prendre ce que l'on voulait de ce discours. Et notamment madame Bachelot qui avait dit que le début était mauvais.
On l'a pas dit exactement ça, non.
J'ai pas dit ça.
voilà. Et donc en fait, et je voulais savoir aussi si ce discours était encore audible aujourd'hui, en fait. Parce que c'est vrai qu'elle parle de drame. Alors je suis un homme, excusez-moi, mais je peux ça peut-être quand même un petit peu en parler. Que ça soit toujours un drame. Et que le devoir était de dissuader les femmes à avorter. Donc ma question, c'était, même, est-ce que finalement ce discours ne rentrerait pas sous la nouvelle loi de délit d'entrave à l'avortement. Bon, voilà.
Je pense pas, Mathieu, mais je vais passer la parole à Roselyne Bachelot puisque vous venez de l'interpeller directement.
Alors, il y a certains mouvements extrémistes féministes qui effectivement condamnent une partie du discours de Simone Veil. Il faut avoir l'honnêteté de le dire en pensant que la dramatisation du discours de Simone Veil était en quelque sorte un appel à ne pas avorter, à considérer l'avortement comme une sorte de dernier recours et comme un échec. Mais il faut se replacer dans le temps de 1974. Il faut se replacer dans cette Assemblée nationale. Il faut relire les discours qui sont prononcés contre elle.
Et moins de 10 femmes à l'Assemblée pour pratiquement 500 hommes.
Il y a 8 femmes.
Qui a fait entendre
Annette Vievorka.
J'ai qu'il y a un député qui a fait entendre avec
c'est
un
monsieur
magnétophone.
C'est M. Hamel, du Rhône, justement.
Voilà,
vient
les battements de cœur.
Par un magnétophone.
Voilà, par un magnétophone. Ça a été quelque chose de tout à fait ahurissant, un déchaînement.
Il faut pas renier aussi,
neuf femmes.
Il faut pas renier non plus l'importance stratégique de ce début de discours.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, quand on est militante, et qu'importe la position dans laquelle on est, qu'on soit femme politique, militante, oui, le mouvement associatif, le mouvement féministe va peser de manière plus radicale dans un discours. Mais nous, on reconnaît aussi le génie stratégique qui a permis à cette loi
exactement,
d'être passée.
C'est ça.
Et donc, non, moi, je ne prononcerai pas ces mots parce que je suis en désaccord avec eux. Et on en discutait hors antenne. Simone Veil ne se définissait pas comme féministe, mais il est important de reconnaître que c'était une femme puissante et une femme politique qui a servi la cause des femmes.
Dans l'édition qui a été faite de ce discours par Annick Cojan,
oui.
Journaliste au Monde.
Journaliste au Monde. Il y a donc une interview de Simone Veil. Elle a cette formule que personnellement j'adore. Je ne suis pas féministe, mais. Alors que d'habitude, les femmes disent je suis féministe, mais. Qu'est-ce que ça voulait dire, je pense, dans la bouche de Simone Veil, c'est qu'elle n'a jamais été une militante des mouvements féministes.
Elle venait pas du féminisme.
Elle venait pas du féminisme. Hein. Je suppose que lorsqu'elle n'était pas en accord, je n'en sais rien, avec la totalité des discours des féministes, parce qu'il n'y a pas un féminisme, mais elle s'est battue, et c'est son mais, elle s'est battue pour la parité. Elle s'est battue pour le droit à l'avortement. Elle s'est battue aussi dans sa vie personnelle, elle le raconte avec un peu d'humour, pour avoir le droit de travailler. Il faut quand même se rappeler ce qu'était la condition des femmes intellectuelles, enfin qui avaient des professions comme elle, qui avaient des études comme elle, et que les maris préféraient voir
Antoine
rester...
Antoine Veil n'a pas voulu qu'elle
absolument,
soit avocate. C'est
absolument,
pour ça qu'elle a été magistrate.
Absolument, donc elle le raconte. Donc, elle n'a peut-être pas été féministe, mais elle s'est battue et elle est un modèle pour les femmes.
Absolument, et en fait, elle le disait elle-même en parlant de ce discours et des réactions. Elle a une citation où elle explique ce qui m'a frappée et ce qui m'a heurtée, en plus de ces références à la Shoah qui étaient portées par certains contradicteurs avec une indignité quand même profonde, c'était l'hypocrisie de cette assemblée majoritairement constituée d'hommes et qui, par ailleurs, cherchait en sous-main des contacts pour aller faire avorter illégalement, leurs compagnes, leurs maîtresses ou leurs amis proches. Donc je crois qu'au final, quand on prend une telle violence masculine, parce qu'on est femme, parce qu'on est une femme politique et qu'on veut faire avancer les droits des femmes, dans le fond, je crois qu'on devient déjà un peu féministe.
Et moi, je note que, bon, ce que nous a dit Mathieu est une chose, je note aussi ce que nous a dit notre première auditrice lyonnaise, Annette Vivorka, vraiment ce sentiment de cette dame qui nous dit « j'ai failli pleurer aujourd'hui ». Ça veut dire que Simone Veil faisait vraiment partie du patrimoine national.
Et tout le monde a ressenti ce deuil comme un deuil personnel. Et toute génération confondue. J'ai vu un journaliste américain ce matin qui a fait un micro-trottoir et qui m'a dit « c'est incroyable, les jeunes filles savent qui est Simone Veil ». Donc il y a quelque chose de très particulier dans le destin, dans la vie et dans les engagements de cette femme.
On repart au standard. Cette fois, c'est Claudie. C'est bien ça ?
De Marseille, oui.
De Marseille. Bienvenue à vous. Vous avez la parole.
Alors, j'ai commencé mes études de médecine en 69. Et pendant mes études de médecine, moi, je voulais être psychiatre au départ. Pendant mes études de médecine, j'ai vu des femmes mourir d'avortements faits dans des conditions lamentables. J'ai vu des femmes jetées à la porte de la clinique quand elles avaient été avortées en saignant... en fait, tout ce qu'on a pu voir à ce moment-là. J'ai vu des femmes mourir, j'ai le visage d'une femme qui a ses 4 enfants, qui est morte parce qu'elle a fait un avortement, enfin, dans des conditions lamentables. Alors que j'étais seulement étudiante, des sages-femmes, des infirmières qui venaient me demander de les aider. J'ai dit, mais je ne sais même pas poser un spéculum. Et je me suis dit, quand je serai médecin, je veux aider ces femmes. Donc je me suis impliquée, j'ai fait ma formation en gynécologie, je me suis impliquée dans la bataille pour l'avortement et la contraception, j'ai fait des avortements en toute illégalité, j'ai formé des gens à la méthode Carman, je me suis impliquée. Et la mort de cette grande dame qui a eu un destin hors du commun me touche beaucoup. Elle a beaucoup fait et je l'ai entendu dire, c'est non-assistance à personne en danger, c'est pas faire forcément du féminisme simplement, c'est être un être humain.
Un grand merci Claudie pour ce témoignage.
Est-ce qu'on peut répondre à Claudie si elle nous écoute encore, parce que c'est vrai
qu'on entend
beaucoup parler des grandes dames, mais moi je voulais vous dire, parce que j'ai la chance d'être née à une époque où l'IVG était légale, mais merci à vous aussi, et vous n'êtes pas moins une grande dame en ayant permis tout ça, et surtout à une époque où trop souvent aujourd'hui on nous dit que les personnes qui vont en gynécologie sont celles les moins bien classées en études de médecine. D'avoir des personnes comme vous qui ont eu ce courage-là à cette époque, ça nous a permis d'avancer beaucoup. Merci.
Mais ce qu'on peut dire aussi, et vous ne me démentirez pas,
il y a eu
comme ça des femmes et des hommes médecins militants qui allaient dans les centres d'IVG, qui ont pratiqué des avortements clandestins, qui sont allés ensuite dans les centres d'IVG, dans les centres d'orthogénie, comme on dit, dans les hôpitaux, pour pratiquer ces avortements, et qu'on a vraiment, chez les jeunes médecins, un vrai problème de recrutement pour effectuer des avortements. Et là, il y a un vrai problème. Ce droit irréfragable, il est à conquérir, et il faut que les médecins nous aident, que les droits, je dirais, factuels deviennent des droits opérationnels. Et ça,
c'est au pouvoir public aussi, Roselyne Bachelot, d'être vigilant
sur
ce point-là.
Oui, d'être vigilant, puis d'expliquer qu'un droit, il ne suffit pas de le mettre dans un texte, il faut qu'il soit vrai. Si les médecins ne veulent pas, pour des raisons, je ne sais pas, peut-être de désintérêt de ces choses-là, parce qu'ils pensent que ces combats sont derrière eux, que le droit à l'avortement, ça y est, ça fait partie du patrimoine commun. On n'a pas des médecins pour exercer ce droit, c'est un faux droit.
Petite question, Roselyne Bachelot, sur l'action de Simone Veil. Est-ce qu'elle a été vraiment seule dans ce combat à l'époque? On a l'impression que c'est elle qui portait tout. Je ne sais pas s'il faut que je vous demande ça à vous, Roselyne Bachelot, ou à vous, Annette Vivorca.
Peut-être Annette, on se connaît mieux.
Bon, comme je suis historienne, je vais donner quelques références. Ce combat pour la contraception et pour l'avortement, c'est un combat qui a été porté dès les années qui ont suivi la guerre. Moi, je me souviens du livre de Marie-Andrée Lagroix-Veillalé,
La grande peur familiale,
La grande peur d'aimer, le livre de Jacques de Rogy, La grande enquête sur l'avortement. Et on connaît tous, dans ma génération, celle née de l'après-guerre, des personnes qui ont perdu leur mère à la suite d'un avortement. Je pense au livre, au film d'Otero, Le secret, de Mariana Otero. Voilà. Donc on peut dire que c'est un combat qui a duré très longtemps, et elle n'a pas été seule. Mais le sentiment de solitude et la grande solitude, ça a été effectivement à l'Assemblée, parce que elle était à la tribune, on est toujours seul, je suppose.
Roselyne Bachelot a connu ça avec le bac.
Voilà. Et devant une Assemblée où la
vituperante,
une partie qui la soutenait, la gauche. Yvette Roudy rappelait tout à l'heure que la gauche l'avait soutenue. Donc en fait, c'est une loi qui
votée,
est passée.
C'est passé grâce à la gauche, hein, quand
elle
même.
Elle est passée grâce à la gauche.
Il y a à peu
quand
près
même
un
loi
tiers des députés de droite qui a voté le texte.
C'est quand même une loi qu'elle a portée contre une partie de son camp, parce que je rappelle quand même le nom de Lucien de Wirth, que j'ai évoqué tout à l'heure, la loi de contraception. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a une partie quand même de la droite qui a été
à ses côtés,
et ouverte à ces questions-là.
Et puis le texte était voulu par Giscard d'Estaing, quand même.
Et le texte était voulu. Oui, c'est-à-dire que c'est pas une lubie de Simone Veil,
qui décidait
de faire une loi. C'est le début très moderniste qui a été le début de la présidence de Giscard d'Estaing. Donc d'un côté, elle était seule. La violence, on l'a rappelé, une violence aussi antisémite, avec des croix gammées qui étaient dans le hall de son appartement, elle l'écrit. Mais une partie des gens, bien évidemment, la société civile, disait René Friedman tout à l'heure, qui l'a soutenue. Et la gratitude des femmes à l'égard de Simone Veil, elle est absolue.
Une toute petite question à Pierre Méhaignery, qui est toujours dans les bouchons, c'est
oui,
ça
oui, oui,
sur ce combat, effectivement, il y avait du monde avec elle ou comment ça s'est passé? Vous vous souvenez, vous, des centristes avec Simone Veil?
Très peu. Ce que je sais, c'est qu'en politique, il y a le dire et le faire. Elle était dans le faire. C'est-à-dire, ses convictions étaient tellement puissantes qu'elle ne plaisait pas. Mais au moins, quand je vois son engagement européen et les réunions, il faut le rappeler, c'est complémentaire de ses choix politiques. Elle a mis tellement de passion dans son engagement européen et ses questions d'actualité. Elle n'avait pas peur de dire la vérité telle qu'elle le ressentait. Et ça, aujourd'hui, en politique, c'est un élément important. Le faire plutôt que le dire, ou l'entre-soi, ou la volonté de plaire à tout prix. Je crois que ça peut être une référence pour nous tous en politique.
Rosine Bachelot, l'aspect courageux, même dans la solitude du combat, parce qu'on disait tout à l'heure, vous, c'est le PAX que vous avez mené bien seul quand même à l'époque.
C'est ce que je disais, elle n'avait pas peur de s'opposer à son propre camp tout en restant loyale. Elle estimait qu'il y avait des choses importantes. Elle est au Conseil constitutionnel. En 2005, il y a le débat sur le traité constitutionnel. Elle décide qu'elle ne peut pas rester dans le devoir de réserve que lui impose le Conseil constitutionnel. Elle sort de sa réserve. Elle milite pour le traité constitutionnel parce que ça lui paraissait tout à fait indispensable. Sur son épée d'académicienne, il y avait trois choses. Il y avait son numéro de déporté, 78-651. Il y avait liberté, égalité, fraternité, et il y avait unis dans la diversité, c'est-à-dire la devise de l'Europe. Ces trois choses, elles constituent Simone Veil, la Shoah, la République et l'Europe. Et ça, c'est une personne qui ne transigeait jamais sur l'essentiel.
Raphaël Rémy-Leleu, et ensuite on va retrouver Daniel Gaudric, qu'on a un petit peu perdu en cours de route.
Sur l'aspect européen du combat de Simone Veil, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué depuis maintenant 2 ans où je vais à des rendez-vous au Parlement européen pour oser le féminisme. C'est qu'en fait, la place devant le Parlement européen, donc la place sur laquelle tout le monde se donne rendez-vous sans forcément y prêter attention.
À Bruxelles ou à Strasbourg?
À Bruxelles. S'appelle la place Simone Veil. Et ça, je trouve que c'est un beau symbole, que c'est aussi la reconnaissance d'un vrai matrimoine, puisque le patrimoine ne doit pas être réservé aux hommes. Et j'espère qu'en France, on sera capable de se donner de beaux symboles comme ça de reconnaissance vis-à-vis de Simone Veil, d'autant plus que oui, son combat était européen, et que le combat pour le droit à l'avortement en Europe n'est toujours pas gagné, loin de là.
Alors, puisque vous évoquez la question du souvenir, du patrimoine, là j'en profite, et puis après c'est promis, on va retrouver Daniel Gaudry. Je vous pose la question parce que on nous la pose sur Twitter. Ça, c'est Bernard qui évoque le Panthéon. Alors, est-ce
que je lui tout de suite oui.
Voilà. Oui. La question ne se pose
voilà,
même
Bernard,
pas.
Si vous écoutez, c'est clair. Roselyne Bachelot est pour, Raphaël Rémy-Leleu aussi, Yael Vorka aussi. Il n'y a pas photo.
On a fait rentrer
évidemment.
Geneviève de Gaulle.
Il y a déjà une pétition.
Et Germaine Tillon au Panthéon.
Il y a déjà une pétition en ligne pour la panthéonisation de Simone Veil que je vous invite à signer.
À mon avis, ça...
Il faut que sa famille soit d'accord. Vous savez que on l'a eu le cas pour Albert Camus, dont la famille a refusé qu'il soit panthéonisé.
Daniel Gaudry, toujours en ligne avec nous ?
Tout à fait,
Le Panthéon, vous signez, vous aussi, dès demain ?
Enfin bon, je n'ose pas dire ce que je pense du Panthéon, donc...
Ah, mais si, allez-y, on est entre nous. Ce soir, tout est permis.
Enfin, une voix dissonante.
Mais donc, effectivement, pour qu'il y ait des femmes au Panthéon, je suis tout à fait d'accord, oui.
On notera les grandes
aux
femmes
grands
également.
Hommes, la patrie reconnaissante.
Voilà, exactement. Il y aurait des modifications à faire.
Voilà. On repart au standard. Michel, cette fois, est en ligne de Paris. Bonsoir, Michel.
Bonsoir.
Bienvenue à vous.
Bonsoir. Je voudrais vous dire quelque chose qu'on n'évoque jamais, parce que ça peut paraître un peu particulier. Mais Madame Veil, elle a fait quelque chose d'énorme pour les infirmières. Elle a fait reconnaître ce corps-là.
Vous êtes infirmière, Michel ?
Oui, je suis infirmière de formation et je suis devenue infirmière générale. Et elle a créé ce poste au sein des directions des hôpitaux, en reconnaissant un rôle propre à l'infirmière, différencié de son rôle d'exécution par rapport au médecin. Et c'est elle qui a créé ces postes-là en 1975. Après, évidemment, c'était aux infirmières de se différencier et de faire valoir ce qu'on leur avait permis peut-être de faire et qui n'est pas toujours pas abouti.
Merci beaucoup Michel, Roselyne Bachelot.
Ah oui, parce que on réduit en quelque sorte, réduire le mot n'est peut-être pas exact, le rôle de ministre de la Santé à cette loi sur l'avortement. Il faut pas oublier qu'il y a tout un package d'actions de Simone Veil. Effectivement, Michel a raison de rappeler le rôle des infirmières, de leur statut, d'une augmentation substantielle du salaire avec une prime qu'on appelle la prime Veil de 250 francs à l'époque. Elle a remis sur pied l'Institut Pasteur qui était absolument en déshérence. Elle a créé une aide aux mères de famille, une aide financière aux mères de famille, et c'était une partisane ardente d'une restructuration de la carte hospitalière, et elle s'est opposée, elle s'est fait pas mal d'ennemis dans les élus locaux en supprimant des centres hospitaliers, enfin des petits hôpitaux obsolètes qui étaient dangereux pour la santé des personnes accueillies. Donc elle avait une vision qui était absolument pas démagogique de sa fonction de ministre de la Santé, et il convient de rappeler que l'œuvre de Simone est globale.
Et beaucoup plus vaste qu'on avait pu l'évoquer jusque-là. Voilà. Marc nous appelle des Yvelines. Bonsoir Marc.
Bonsoir mesdames. Évidemment pour le Panthéon, on se donne ma voix tout de suite. Je voulais vous signaler de ce qui se passe en Pologne en ce moment. Ils sont en train d'interdire l'avortement. Ils vont faire enseigner la sexualité par les prêtres dans les écoles publiques. Et ils ont fait signer une charte par 3800 médecins déjà, qui stipule que le droit divin est supérieur au droit de l'homme. Madame Bachelot, je vous demande de faire quelque chose. C'est abominable ce qui se passe là-bas.
Le droit, à l'avortement en Pologne était déjà extrêmement limité. Donc c'est une limitation dans la limitation.
Oui.
Et les femmes polonaises se sont battues.
Elles ont fait reculer quand même.
Voilà,
Marc vous demande d'agir, Roselyne Bachelot.
Écoutez, je ne suis plus une femme politique, je suis une journaliste, mais à ma place de citoyenne, bien entendu, à chaque fois, je milite dans un certain nombre d'associations féministes où nous combattons évidemment à côté de nos sœurs polonaises.
Raphaël Rémy Leleu.
Il faut rappeler plusieurs choses. Alors déjà, oui, le combat des Polonaises, puisque généralement, l'interdiction de l'avortement va également avec une tentative de reprise de contrôle des hommes sur le corps des femmes, y compris sur la contraception. C'est pour ça que nous on dit souvent le corps des femmes, c'est le premier champ de bataille du patriarcat. Mais il n'y a pas que la Pologne. Il y a l'Espagne, il y a quelques années, il y a Malte, où c'est toujours interdit et où tout le monde semble l'oublier et passer sous silence. Et donc ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a toujours...
Et les reculs de Monsieur Trump.
Et les reculs de Monsieur Trump, là, bien entendu, y compris...
Il
y a deux grandes choses. Il y a à la fois le droit à l'avortement et son effectivité, qui passe par les fonds donnés aux services qui s'en occupent, l'information... objective et bienveillante donnée aux femmes et aux filles. Et ce qu'on va faire, c'est également que l'ensemble des organisations féministes sont en train de se réunir en France et au niveau européen pour que le 28 septembre prochain, qui est la journée mondiale de lutte pour le droit à l'avortement, on ait une grande mobilisation européenne sur ce droit pour sa légitimation dans le droit, dans la constitution de certains États, mais aussi pour son accès libre à l'ensemble des femmes.
Annette Vivorca, et puis on prendra un tout dernier appel très rapidement au standard.
Je pense que puisqu'il s'agit de Simone Veil, on peut aussi dire que ces pays, que ce soit la Hongrie, la Pologne, la Croatie, ce sont des pays aussi où l'antisémitisme revient. Ce sont des pays où tout le travail de mémoire auquel Simone Veil a attaché son nom est remis en cause et où mes collègues historiens polonais sont aujourd'hui attaqués et pour certains menacés de la justice. Donc je crois que il faut pas isoler la question du droit à l'avortement, vous avez raison, enfin la journée internationale, mais qu'on s'aperçoit que chaque fois que l'on attaque les droits des femmes, on attaque autre chose en même temps. Où chaque fois qu'on attaque la mémoire des Juifs, on attaque aussi autre chose et qu'il y a un lien. Et que Simone Veil personnifiait en quelque sorte ce lien.
Très rapidement, un tout dernier appel au standard de France Inter. Géraldine, vous nous appelez de Martinique, c'est bien ça ?
Oui, c'est bien ça. Je suis en Martinique.
Je vais être obligée de vous presser un petit peu, mais il nous reste 3 minutes.
Oui, bah, très rapidement. Ce que je voulais juste dire, c'est que moi, j'ai toujours été féministe et j'ai toujours été de gauche. Et que le combat de Simone Veil, en fait, elle avait beau dire qu'elle n'était pas féministe et elle avait beau être de droite, son combat pour le droit des femmes, il est au-dessus de tout ça, au-dessus des clivages droite-gauche, au-dessus de la définition de ce qu'est le féminisme. De toute façon, elle était là pour défendre le droit des femmes.
Et une petite question peut-être.
Défendu. Non, j'avais juste cette remarque-là à faire. Et puis aussi, je voulais dire que je suis très fière et très émue d'être en ligne, enfin d'être en antenne en même temps que Mme Bachelot, parce que de la même façon, Mme Bachelot est de droite, je l'admire beaucoup et je l'adore. Voilà.
Merci. Roselyne Bachelot. Merci. Vous avez eu raison de venir.
Je suis très touchée. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de combats quand il s'agit d'humanité, de droits humains irréfragables. Je crois qu'on peut se retrouver entre personnes de droite et personnes de gauche. Et c'est ça aussi qui fait la popularité de Simone Veil et qui fait qu'elle est irremplaçable.
Daniel Gaudry, un tout dernier mot, le mot de la fin pour vous, peut-être un dernier message ?
Le dernier message, c'est que la personnalité de Madame Simone Veil est extraordinaire et qu'il faut la garder en mémoire pour que les combats sur les droits des femmes puissent continuer. Parce qu'il ne s'agit pas de penser que elle a fait une œuvre extraordinaire et la considérer et la mettre au musée, loin de là. C'est tout à fait vivant ce qu'elle a fait et il faut vraiment continuer à ce que ça reste bien, bien, bien actuel et vivant.
Merci beaucoup Daniel Gaudry, Raphaël Rémy Leleu. Je pense que vous êtes entièrement d'accord.
Un merci infini à Simone Veil, à celles qui se sont battues à l'époque, à celles qui se battent maintenant. Et juste, j'espère que toutes les personnes qui aujourd'hui saluent unanimement la mémoire de Simone Veil seront réactives demain pour poursuivre ces combats et ne pas nous mettre des bâtons dans les roues quand il s'agit de gagner des droits pour les femmes.
Annette Vivorca, un dernier mot à vous aussi.
Ben je... La même chose que...
On est toutes d'accord.
On est tous d'accord. Oui.
Vigilance.
Ce combat n'est pas terminé. Ouais.
Vigilance.
Les droits des femmes sont perpétuellement renégociables. Hélas.
Merci mille fois, Roselyne Bachelot, Raphaël Rémy Leleu, Annette Vivorca. Merci à tous et à toutes de nous avoir appelés. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission ce soir. Irène Menahem, Mathieu Sarda, Pierre Gaufre, Jérémy Younes. À la réalisation ce soir, Eric Léné, à la technique, Stéphane Boja, Jean-Noël Vélan, Ronan Mahé. Merci aussi aux standardistes de l'émission. Je vous dis à lundi pour le téléphone sonne.